Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, la deuxième de la saison. Nous allons passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec, pour commencer, la sortie du film Fils 2 qui est sorti mercredi dernier dans les salles à cette occasion. Carlos Abascal Perro sera notre invité, le réalisateur, accompagné de Saosan Abès et de Jean Chevalier, ces deux comédiens. Et puis nous allons revenir également sur la sortie de Adieu Jean-Pat qui est sorti mercredi dernier également au cinéma. Sa comédienne Constance Labbé sera également avec nous et nous parlera de ses projets, notamment du tournage de la nouvelle saison de Cat Size. Roby Skinazi a fait sa rentrée dans Demain nous appartient et va tout nous dévoiler sur ses nombreux projets pour cette saison. Et il y a du boulot, je peux vous le dire. Stéphanie Pilonka sera également avec nous pour la toute nouvelle série qui débarque mercredi sur France 2. Ça s'appelle Dans de beaux draps. Elle va quasiment tout nous dire. C'est promis, Stéphanie Pilonka sera en ligne avec nous. Et puis une place pour Pierrot, ça sera notre coup de cœur ciné cette semaine également qui sort mercredi au cinéma. En fin d'émission, nous aurons la chance de recevoir la réalisatrice Hélène Médigue qui sera accompagnée de Marie Gillin et de Mathilde Labarthe. Et puis enfin, en exclu podcast, cette semaine, place à la comédienne Pascale Rocard qui viendra tout nous dire sur ses projets, projets de films, livres qui viennent de sortir, elle nous dira tout. Évidemment, en exclusivité dans Chut, on écoute la télé. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui, alors c'est parti, on démarre tout de suite avec notre spécial Fils 2.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine s'appelle Fils 2. Ça vient tout juste de sortir au cinéma. Vous pouvez le découvrir, un film de Carlos Abascal Perro qui est avec nous. Bonjour Carlos.
Bonjour.
Pas venu tout seul.
Non, je suis avec accompagné, très bien accompagné, Jean Chevalier.
De la Comédie Française.
De la Comédie Française, qui joue le rôle des Nino, cet assistant parlementaire un peu perdu.
Bonjour, bonjour Jean.
Bonjour.
Merci d'être là et puis aussi la touche charme quand même de ce film.
Ouais, l'incroyable Saosan Abès, qui joue une journaliste implacable dans le film et à la fois très humaine.
Alors Nino va devoir en tout cas dans ce film résoudre bien des problèmes en 24 à 48 heures, on lui souhaite évidemment pas ça à qui que ce soit, parce qu'il va devoir résoudre problèmes sentimentaux, problèmes familiaux, problèmes politiques. Moi ce que j'ai aimé Carlos, c'est qu'enfin on a un film politique traité sous le ton de la comédie. Et comme en ce moment la politique est une grande comédie, que ça fait du bien de voir ça.
Bah ça m'a fait le plaisir que tu dises ça, parce que je crois pleinement que la meilleure manière de traiter le pouvoir, c'est à travers la comédie. Ça révèle nos failles, ça nous permet de rendre terrestre le pouvoir, de le rendre moins grave et de rappeler qu'il faut toujours se moquer du pouvoir. C'est une mission citoyenne et presque c'est un principe de la démocratie. Je crois à fond. Et en parallèle, je crois qu'on a essayé de faire un film d'aventure qui peut se partager, qui peut créer des rapports et que ça, c'est aussi politique. Pour moi, le cinéma consiste à parler avec des gens avec lesquels forcément on n'avait pas forcément quelque chose en commun avant la séance et parce qu'un film, peut-être éventuellement, on est réunis.
Alors Jean, Nino est un attaché parlementaire qui va devoir non seulement composer avec sa petite amie qui elle est journaliste et un peu Fuintou, et en même temps va devoir tenter de décider son père à accepter le poste de Premier ministre, et tout ça en 24 heures.
Ouais, c'est un personnage qui cohabite un peu avec le feu d'artifice pendant un moment, parce que il a une relation sentimentale où il est un peu habité par beaucoup de maladresse, ce qui embête passablement un peu sa compagne. Et puis après, il y a toute cette aventure de retrouver le père. Je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça, mais retrouver le père avec qui on ne parle plus, le retrouver dans un cadre professionnel, mais avec tout ce qui se passe en termes de corps, d'émotions, et voilà, ça bouscule. Ouais.
Le rôle de Cao San, évidemment. Alors, toi, tu joues la journaliste qui essaye de grappiller les infos, évidemment en exclu, et si c'est encore mieux, avant tout le monde.
Oui, exactement. Malka, elle est hyper déterminée dans sa carrière. Elle a un objectif à atteindre, et quitte à se mettre des petits obstacles dans sa relation avec Nino, ça la dérange pas. Donc voilà, elle va faire tout ce qu'elle peut, en tout cas, pour atteindre son objectif, qui est de présenter la matinale.
Alors Jean, comment s'approprie, comment on se prépare à ce rôle de Nino? On regarde un peu quelques documentaires politiques, on étudie de près justement le scénario du film, comment ça se passe? Raconte-nous en tant que pensionnaire de la Comédie Française.
D'abord il y a l'héritage, mon père a fait de la politique, donc j'ai quand même grandi avec pas mal de costards à la maison. Donc j'ai des petits repères sur une forme d'expression physique de quelqu'un qui travaille là-dedans. Et puis après, moi j'adore ça. Bon, ça, on partage pas tellement ça avec Carlos, mais enfin, de manière un peu différente. Mais moi j'allais à l'Assemblée nationale boire des cafés, et je passais mes matinées à regarder les attachés parlementaires, leurs costumes, leurs petites broderies un peu vestimentaires qui m'intéressaient, des manières de tenir le stylo, d'avoir l'ordinateur dans le dos, des chaussures, tout ça. Et après, on s'attelle au texte, travailler le texte, et on a la chance, c'est pas toujours le cas, mais d'avoir un beau texte, parce que Carlos a une plume très gourmande à jouer. Et voilà.
Et bavarde aussi, une plume bavarde, hein, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Carlos, justement, quand on s'attaque à un film politique, et en plus sur le ton de la comédie, est-ce que c'est encore plus difficile? Est-ce que là, on se rajoute en plus de la complication? La comédie, on le sait, hein, y a rien de plus difficile à faire.
C'est vrai. Moi, il faut que je vous avoue que j'ai jamais envisagé l'idée première, c'est jamais faire une comédie. Mais je sais qu'à chaque fois que j'écris, les gens lisent et disent ah ouais, c'est drôle. Ça m'arrive. Je vois qu'il y a une comédie. Moi, je voulais faire un film d'aventure, mais je pense que ça me fait penser. Il y a une phrase de Howard Hawks, un réalisateur américain, un grand réalisateur qu'on admire tous. Et lui, il avait dit que le cinéma d'aventure et la comédie, c'était un peu la même chose, sauf que le rôle qu'elle a peur joue dans le cinéma d'aventure, on a peur pour l'euro, c'est la honte, c'est repris par la honte dans la comédie, c'est le malaise, c'est la honte. Moi je crois beaucoup à ça, et par ailleurs c'est vrai que je suis, comme vous êtes en train de vérifier, quelqu'un d'être très bavard. La parole, c'est mon espoir préféré, et j'ai vraiment besoin que les personnages doivent parfois cacher ses blessures à travers la parole, parler c'est une façon d'exister, et parfois d'oublier, d'aller plus vite. Nos personnages, ils ont un retard spirituel et concret dans le film, ils ont 24 heures pour résoudre un problème d'état sentimental, filial, romantique, et j'espère que ça parlera au public. Et très humblement, à chaque fois j'ai dit à mes amis, le film, idéalement, il faudrait que ce soit un mélange d'Indiana Jones et Pierre Richard, voilà, qui se passe en politique.
La comédie d'aventure, on avait vu, mais la comédie d'aventure politique, eh ben, on n'avait pas encore vu, c'est unique, ça s'appelle Fils 2, ça vient tout juste de sortir dans les salles, on vous invite à aller le découvrir, on va écouter la bande-annonce, et on revient juste après, on va demander à Cao San ce que ça fait d'être passé de l'autre côté, à notre place. À tout de suite.
Mais c'est pas le Fils 2... Lionel Perrin, le président a pensé à ton père pour devenir Premier ministre.
On n'est pas très proche avec mon père. Hein.
Le problème, c'est qu'il ne veut parler qu'à toi.
Tu m'as dit que c'était quand, la dernière fois que t'as vu ton daron?
Papa, faut qu'on se parle, on a trois quarts d'heure.
Ah, vous êtes deux? Parce qu'il faudrait remonter le piano.
Je vais présenter la matinale.
Il vaudrait mieux qu'on...
Ah, que je demande une mutation pour pas court-circuiter ta carrière?
Non. Oui.
Nous sommes à la veille de l'investiture et nous ignorons qui sera à Matignon.
Lionel Perrin.
Lionel Perrin!
Enfin, qui a eu une idée aussi débile? C'est toi?
Oh, c'est pas vrai.
Les marchés ne veulent pas de Perrin.
La France, surtout, ne veut pas de Perrin.
Et moi, j'ai confiance en la France.
Quel bordel.
Fils 2, c'est la comédie de Carlos Abascal Perrault à découvrir dans les salles depuis mercredi dernier. On a la chance d'avoir toute une partie de l'équipe avec nous aujourd'hui. Cao San, alors toi, tu joues le rôle donc de Malka, une journaliste. Alors, ça fait quoi d'être passé de l'autre côté? Et comment tu t'es préparé à ça? Est-ce que tu as été dans des rédactions? Est-ce que tu as pris quelques conseils? Raconte-nous.
Oui, pour le rôle, j'ai regardé pas mal de docus sur le journalisme, le métier de journaliste. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Carlos a été journaliste, donc c'était aussi facile d'être dirigé, il connaît le métier. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos, notamment parce que j'ai des scènes face plateau, et pour moi, c'était important, pareil, d'étudier les mimiques, la voix, le ton... toutes ces petites choses qui font que tout d'un coup ça devient réel. Et c'est marrant, moi je trouve que je suis pas très à l'aise dans l'exercice d'être interviewée par des journalistes, parce que tout d'un coup on parle de soi, alors que quand on est comédien, c'est un personnage qu'on incarne et il y a une forme de détachement. Et c'est vrai qu'à chaque fois je me rends compte que je suis pas forcément la plus à l'aise dans cet exercice.
En tout cas, France 2 cherchait un joker pour ses 20h et ses 13h. Ils ont qu'à regarder Fils 2, ils l'ont trouvé. Voilà. Bon, quel a été votre meilleur souvenir à tous les trois de ton âge, Jean ? La rencontre avec François Cluzet déjà, quand même.
La rencontre avec François, c'était quand même quelque chose. Non, je vais dire un truc qui nous concerne tous les trois. C'était la première séance de travail qu'on a eue tous les trois. C'était très très agréable de se rencontrer, de se découvrir et de sentir qu'on avait une curiosité... une curiosité semblable et cette gourmandise-là de notre rencontre à trois. Voilà. En amont du tournage.
Ça, Ossane ?
Je vais le rejoindre, c'est pas du tout pour te copier Jean, mais ça a été vraiment incroyable de à la fois rencontrer Carlos qui est très dans le détail et qui est vraiment à l'écoute et qui a été d'une bienveillance folle avec Jean et moi et qui nous a un peu aussi pris sous son aile parce qu'en effet on a travaillé avec des acteurs plus expérimentés qui avaient certainement moins besoin aussi d'être accompagnés. Et on s'est beaucoup vus tous les trois avant même le début du tournage, comme on a été castés en amont et ces moments-là étaient vraiment précieux.
Et moi, ça appartient pas pile au tournage, mais je veux dire, un peu avant, c'est ces moments un peu magiques où on fait une lecture avec tous les comédiens à table, donc on arrive à voir tout le casting. C'est vrai que le casting, on a eu un casting formidable, humainement, professionnellement, et le fait de voir Saoussane, Jean, mais aussi François Cluzet, Alex Lout, Karim Viard, Olivier Broche, Marc Singa, Vincent Graz, bref, un pléthore des comédiens formidables qui nous ont accompagnés dans le film, je sais que c'est un des jours les plus heureux de ma vie, parce que tout d'un coup tu vois ton scénario que tu as écrit dans ton studio parisien.
Qui est en train de vivre devant tes yeux.
Tout à fait, qui prend cher, tu vois ça exister et c'est très très émouvant. Franchement, pour moi qui c'est mon premier film et pour l'instant je le vis comme un dernier parce que Dieu sait que c'est compliqué de faire des films, ces moments-là je sais que je pourrais jamais l'oublier. Voilà.
Tu t'es rendu compte pour un premier film du casting que t'avais quand même, Carlos, de suite, tu l'as réalisé là aujourd'hui à quelques jours de la sortie.
Tout à fait, je me suis dit j'ai arnaqué la vie. C'est des êtres humains et des professionnels formidables. Ils m'ont fait confiance. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En fait, la connexion humaine a très bien marché. C'était pas tellement une question des castings, c'était une question des rencontres. Et le film, c'est une histoire des plein de rencontres. Saoussan l'a très bien dit. Et ça s'est produit avec le casting, avec l'équipe technique, avec mes producteurs. Et mes producteurs, ils étaient avec moi à l'école. On a fait un premier film aussi pour eux. Donc c'est une aventure remplie les premières fois avec des gens qui ont vécu déjà beaucoup de premières fois aussi à côté, qui nous ont appris, qui nous ont guidés. Et j'ai des souvenirs formidables.
Alors aujourd'hui, on est lundi 8 septembre, on ne sait pas ce qui va devenir justement de la politique en ce lundi 8 septembre, mais en tout cas, moi je vous conseille d'aller voir Fils 2 au cinéma, qui vient tout juste de sortir depuis quelques jours, il est depuis 5 jours au cinéma, c'est là, c'est maintenant, c'est important, c'est cette semaine qu'il faut aller le voir, puisque la vie d'un film elle est importante hein, dans les premières semaines, dans la première semaine, les deux premières semaines, c'est là que ça se joue. Vos projets, on termine Jean, les projets pour 2025-2026, qu'est-ce qui nous attend ?
Théâtre, comédie française, on va faire l'école de danse de Carlo Goldoni et après on va faire Hamlet de Shakespeare et voilà le théâtre.
Saoussane, on te retrouvera bientôt d'ailleurs et tu reviendras dans un magnifique téléfilm réalisé par Antoine Garceau sur la naissance des Restos du Cœur en quelque sorte.
Oui, exactement. Alors d'ailleurs, je crois qu'il sort ce mois-ci. Et sinon, actuellement, je joue au Splendide dans une pièce de théâtre qui s'appelle Les Marchands d'étoiles d'Anthony Michino.
On se retrouve très vite du coup. Tu viendras avec toutes les copines, Alizé Coste, Antoine, tout le monde sera là pour fêter la sortie de Haut les Cœurs qui sera bientôt diffusée en tout cas sur France 2. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
Et à très vite.
C'est mort. On vous a mis sur la touche.
Pas du tout.
T'as un problème avec ton père.
De toute façon, qu'il n'y a pas un souci avec son père.
Mais à l'époque, nous, on avait des convictions, mon vieux. Qu'est-ce que t'as, toi ?
Un compte LinkedIn.
Comment ça s'appelle, ces gens tout le temps persuadés d'avoir raison sur tout ?
Et de gauche, les gens de gauche.
C'est qui, ce gars-là ?
Je propose qu'on se calme, on respire.
ce que tu viens de faire ? Ça, c'est du fascisme ordinaire.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, Constance Labbé nous rejoint. On aura le plaisir de recevoir également Roby Skinazi et Stéphanie Pilonka. A tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Tu croyais quoi, madame ? Une vie de rêve sans drame, sans prise de tête. Je suis pas parfait, madame. Tu me le dis trop souvent, mais je ne peux pas t'offrir la lune si je ne suis pas un soleil. Je suis un fou, madame, fou de la reine. Je suis un pitre. Faut mieux pas me connaître si tu veux rester sage. Je suis pas né de la dernière pluie, mais du premier orage. Je t'aimerai jusqu'au sol, etc. La lune est si belle. Château des dîners aux chandelles. Oh, faut pas croire, madame, que dans le village y'a que des rois et des reines aux alentours. Reste sur terre, madame, qu'est-ce qu'on est beau sans l'extravagance. Je te promets pas l'impossible et des vagues de bonheur, mais je te protégerai de la noyade. Je t'aimerai jusqu'au ciel. La lune est si belle. Croyez quoi, madame ? Une vie de rêve sans drame, sans prise de tête. Tu croyais quoi, madame ? Tu croyais quoi, madame ? Je suis pas né de la dernière pluie, mais du premier orage. Je t'aimerai jusqu'au ciel, etc. La lune est si belle.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Aujourd'hui, on va reparler d'Adieu Jean-Pat qui est sorti tout juste en salle. C'était mercredi dernier, peut-être vous ne l'avez pas vu sur son premier week-end. Bah, c'est le moment de le découvrir. Maintenant, on va en parler avec Constance Labbé qui nous rejoint et qui sera d'ailleurs aussi au Festival de la Fiction Télé pour présenter Désenchanté. Bonjour Constance.
Bonjour Alain, merci de me recevoir.
Quelle rentrée chargée.
Ah bah ouais, quelle rentrée géniale. C'est trop bien.
Entre deux scènes de 4 size, saison 2. Et ben voilà, trouve le temps d'être partout, notre Constance. Et ça, c'est toujours pour notre plus grand plaisir, Constance. Pour parler d'Adieu Jean-Pat qui est sorti il y a quelques jours, tu y joues le rôle de Léo qui est la meilleure amie d'Étienne, qui l'accompagne dans tous ses délires et qui va avoir une façon bien à elle, en tout cas, d'organiser une veillée funèbre qui va bien nous faire rire. C'est une comédie de Cécilia Rouault qui nous a fait beaucoup rire. Ce personnage, comment tu l'as appréhendé ?
Eh ben, totalement différemment du résultat, parce que au début, moi, je pensais que c'était un peu un personnage un peu très masculin, un peu garçon manqué, le meilleur pote. Je le voyais comme ça, et c'est en lecture, en travaillant avec Cécilia, qui est absolument géniale comme réalisatrice et qui voyait quelque chose de très différent chez Léo. Elle m'a dit non, pas du tout, c'est quelqu'un de très féminin, qui a un style bien à elle d'ailleurs, vestimentaire, et qui est juste hyper naïve, profondément bienveillante, mais qui a que des conseils de merde, mais sans faire exprès, parce que pour elle, elle est dans une vérité absolue, et dans une naïveté, et dans une gentillesse. Je dois dire que c'était un personnage hyper difficile, parce que c'était toujours un peu sur le... sur le fil. Même parfois, je disais à Cécilia après les scènes, je disais, mais t'es sûr, c'est crédible, est-ce que c'est ok et tout. Donc c'était, il fallait jamais lâcher une sorte de naïveté, et un peu comme un enfant, parce que sinon elle tombait un peu, elle était un peu conne quoi. Donc fallait surtout pas lâcher cette foi en la vie et en les gens. Voilà.
Léo, comment tu la définirais toi ?
Gentille, lunaire et loufoque.
C'est pas mal. C'est trois adjectifs qui la qualifient en tout cas très très bien. Et comment garder son femme face à Kim Chemili au top de sa forme ?
Hyper difficilement. Franchement, c'est un des tournages où j'ai eu le plus de mal à pas rire. Ça fait vachement de bien de retourner à la comédie, de faire une vraie vraie comédie. Ça faisait longtemps que j'en avais pas faite au cinéma. Voilà, c'est très très difficile. On a eu des énormes fous rires. Vraiment des énormes fous rires. Là, il a l'œil qui frise. Et normalement, moi, je suis assez forte hein, pour pas partir. Mais là, c'était difficile.
Il y a des scènes en voiture tous les deux qui sont drôles, mais à mourir de rire.
Il faisait chaud en plus, j'avais chaud. Il y en a une où je mange des figues séchées. C'est le truc le plus sucré du monde. J'ai dû en manger à peu près 18. Le soir, j'avais une gerbe pas possible. Enfin bon, bref, ça c'est pardon. Pardon pour le détail. Non, mais c'était... Franchement, en même temps, c'est tellement agréable. C'est comme quand t'es enfant et que t'es au lycée. C'est tellement agréable de partir en fou rire avec tes partenaires. Donc, ouais, c'est arrivé. Puis on a plein de scènes chorales. La scène de l'enterrement.
Dans l'église aussi.
La scène dans l'église, ça résonne et tout. Fallait pas partir en fou rire. C'était hyper difficile. On est tous là en plus. Hein. Donc, et il n'y a pas que Hakim qui est drôle. On était tous très drôles. Il y a Nora Hamzaoui qui est hyper drôle. Bertrand Goncalves. En fait, tout le monde... En plus, Gustave Kerven, je te fais pas un dessin, il est tellement drôle, il est hilarant, il te lâche des trucs un peu en chuchotant, alors que t'es à l'image, c'est tellement, enfin, il fait plein d'impro génial, il est hyper libre. Donc, on était un groupe de comédiens, c'était trop cool, quoi. C'était vraiment la colo.
Si vous avez envie de passer un bon moment, en tout cas, on vous invite à découvrir effectivement Adieu Jean-Pâtes, qui vient tout juste de sortir dans les salles où Constance partage l'affiche avec Hakim Djemili, Nora Hamzaoui et plein d'autres encore, Gustave Kerven, Valérie Carcenti et tellement d'autres, franchement. Mais en tout cas, c'est à mourir de rire, je vous le conseille vraiment. Et puis, c'est ta rentrée quand même, puisque tu as appris cet été que tu étais en sélection avec la nouvelle série de David Ourek dans laquelle tu joues, qui s'appelle Désenchanté, que tu présenteras la semaine prochaine au Festival de la Fiction Télé et en séance hors les murs aussi du côté de Sainte lundi prochain.
Ouais, ah, ça c'est génial, on l'a appris il y a quelques semaines. Je suis trop contente de retourner à La Rochelle avec ce projet que j'ai adoré tourner. C'est la première fois que je bossais avec David. Bon bah tu le connais, tout le monde le connaît, il est formidable, il est gentil, bienveillant. Bah il a ce point commun avec Cécilia Rouault qui est d'adorer les acteurs et d'adorer son métier. Et donc c'est un bonheur de travailler avec des réals comme ça. Voilà, j'ai eu des partenaires aussi absolument magnifiques. Il y a Marie Denarnaud avec qui j'avais jamais tourné, qui joue ma sœur dans la série. Et c'était formidable de travailler avec cette actrice que j'admirais depuis très longtemps.
L'histoire en quelques mots ?
C'est impossible de te la faire en quelques mots. C'est une double temporalité. Marie et moi qui sommes sœurs et on a grandi dans un petit village. Il y a quelque chose qui s'est passé quand on était ados. Nous sommes joués ados par des comédiens qui sont absolument fabuleux, qui sont des jeunes comédiens chamés. Et en fait, on va suivre Marie Denarnaud qui revient dans son village et qui me retrouve. Moi, je tiens le café de notre mère et je suis jamais partie. Et qui va réouvrir une histoire qui date de quand on était adolescente. Et qui
boîte de Pandore.
Exactement. Et donc, elle va comprendre beaucoup de choses sur nous, sur moi, sur nos rapports, sur l'amitié. C'est une fabuleuse histoire d'amitié et de sororité. C'est très, très beau.
À découvrir en avant-première au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, avec des séances mercredi et puis lundi à Sainte du côté de l'Atlantique Ciné. Si des fois vous êtes dans le coin, voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir nous rendre visite. C'est ta rentrée, on le disait, et t'es très occupée aussi par le tournage de Cat's Eyes saison 2.
Ouais, j'y suis encore puisque ça se finit le 10 octobre. Donc on a commencé en mai.
Quelle aventure incroyable ça.
Ouais, c'est une grosse aventure, on fait une super saison 2, je pense même franchement qu'elle va être mieux que la saison 1. J'étais très contente de retrouver les filles, de retrouver Camille et Claire, avec qui on partage beaucoup, encore plus que saison 1. Je pense que c'est ça l'avantage des saisons 2, c'est de retrouver des gens. On a toutes fait d'autres projets après la saison 1 et donc du coup on est un peu différentes mais on se retrouve. Et vous avez retrouvé des nouveaux monuments, des nouveaux personnages hyper fous. On a des super comédiens qui nous ont rejoints. Il y a Chaim qui nous a rejoints, qui est génial. Il y a Tom Leb qui fait un super comédien aussi, qui fait un super personnage. Il y a vraiment des nouvelles ambitions. C'est encore plus fou. Des avions, des hélicoptères, des parachutes, le musée d'Orsay, la tour Montparnasse. Laisse tomber.
Incroyable. Incroyable, Constance. En tout cas, adieu Jean-Pat. C'est en ce moment au cinéma et bientôt dans Désenchanté. En tout cas, une nouvelle fiction à découvrir en 6 fois 52 minutes pour France Télévisions. Merci Constance d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Alain.
On va se quitter avec un petit extrait d'adieu Jean-Pat pour le plaisir et pour le rire.
Ah bah ouais, quand même.
Ah oui, évidemment. Allez, profitez-en. Adieu Jean-Pat. C'est en ce moment au cinéma. Merci Constance. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
C'est toi qui as commandé ça?
Oui. Bah quoi, c'est qu'on revient les pièces montées, non?
Étienne, mais je suis tellement contente de te voir. T'as pas changé.
Toi non plus, c'est fou. C'est fou. Enfin, en fait, je sais pas vraiment parce que je pense pas tout le temps à toi, quoi. Souvent. Parfois, souvent, j'y pense quand même.
On peut lui faire confiance.
C'est sûr.
Ça va?
Ouais, ouais.
C'est ce qu'il y a que pour voir le port.
Non, mais c'est pour les toilettes.
Il va te manquer ton Jean-Pat, hein. Des amis pour la vie, ça.
Ouais. Pour le coup, non, là, mais...
Et c'est la grande rentrée pour Roby Skinazi également, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour, Roby.
Salut.
Et on peut dire que ça va être une saison 2025-2026 qui va être chargée. Chargée parce qu'évidemment, il y a Demain nous appartient. T'as retrouvé tout au long de l'été dans le rôle de Fred. Et on va continuer, évidemment, cette rentrée. Il y a Brigade du Fleuve, un film pour le cinéma. Enfin, tu vas nous parler un peu de tout ça. Mais c'est vrai que, dis donc, ça chôme pas cette année.
Ça chôme pas? Non. C'est le chômage, je ne connais pas. Mais j'aimerais bien, parfois, de temps en temps, avoir juste le temps de dormir un peu plus. Mais c'est formidable de pouvoir travailler autant dans un univers. Ce métier est quand même assez particulier, donc de travailler déjà c'est une chance et donc je ne m'en plains pas, je suis très heureux.
Alors Roby, toi qui es un habitué de l'émission, c'est vrai qu'on se connaît depuis de nombreuses années et là t'es arrivé vraiment sur Demain nous appartient depuis maintenant quelques mois et c'est vrai qu'on a l'impression que tu t'y sens bien et que là vraiment les fans de la série t'ont complètement adopté. Ce personnage de Fred est devenu d'une popularité à une vitesse folle.
Bah déjà merci de dire ça, je sais pas si je m'en rends compte encore, mais en tout cas c'est un tournage particulièrement agréable. D'une part parce que j'ai beaucoup d'amis sur ce plateau et deuxièmement parce qu'il est très organisé et très familial et puis surtout dans un cadre idyllique, je veux dire on est à 7 près de la mer et il fait beau, même l'hiver quand il fait moche à Paris ici, le froid est supportable. Je suis juste très heureux d'avoir rejoint cette grande famille qu'est DNA depuis tant d'années.
Puis c'est vrai qu'avec Victoire, ça file le parfait amour, enfin presque, parce qu'évidemment dans les séries, on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir. Et évidemment, on imagine que le couple connaîtra quelques tempêtes, mais ça a mis du temps quand même hein, à arriver ce couple, parce qu'il y avait Marine évidemment aussi dans l'équation.
Oui, alors déjà, une entente particulièrement bonne avec Solène, qui joue Victoire, donc ça c'est superbe. Et effectivement, ça a mis du temps, mais je crois que c'était voulu, hein, parce qu'une fois que... Une fois que les deux tourtereaux sont ensemble, il faut pouvoir raconter des choses un peu excitantes et qu'il y ait des challenges. Donc le faire traîner, c'était, je pense, pour garder le spectateur en haleine et
monter la pression.
Faire monter la pression. Et maintenant, voyons un peu ce que les scénaristes de DNA ont prévu pour garder cette pression malgré le fait qu'ils soient en couple maintenant.
Alors, il est vrai que quand tu tournes une quotidienne, ça t'a laissé le temps, malgré tout, quand même, de faire plein d'autres choses à côté. Tu participes à cette série Brigade du Fleuve qui va devenir une collection, ça y est. Et le deuxième épisode réalisé par Bénédicte Delmas va arriver bientôt, à nouveau sur les écrans. Ça aussi, c'est une belle aventure. Il y a vraiment une belle équipe dans cette série.
Alors ouais, Brigade du Fleuve, c'est un tournage particulièrement agréable. D'une part parce qu'on est une équipe assez soudée entre Thomas Jouanet, Roxane Turmel, Ibrahim Coma, Pasquale Dinka que tu connais et Jeanne Bourneau et puis moi-même. Et tout ça avec comme chef de bateau Bénédicte Delmas, c'est assez formidable. Et puis je pense qu'on fait du bon travail. Le premier a plutôt bien marché, même très bien marché je crois. Donc France TV a décidé de lancer une collection à hauteur de deux films par an. Et on est très heureux parce que déjà d'une part ça veut dire qu'on va se retrouver pendant 2 mois, toute cette équipe. Et deuxièmement parce qu'il y a des belles choses à raconter, les personnages sont assez bien écrits. Dans le sens où il y a vraiment des histoires personnelles pour chacun. Donc voilà.
Il faudra laisser Fred s'échapper un peu de temps en temps du coup de set.
Et oui, parfois il va falloir que je m'en aille. Ça va être assez particulier parce que je vais faire en alternance d'autres projets. Comme Alter Ego, qui est une nouvelle série avec Eric Cantona et... Bruno Sanchez, Juliette Lemonnier, Adèle Gallois pour TF1 et réalisé par Philippe Dajou qu'on tourne en ce moment, que je vais devoir faire en alternance avec Brigade du Fleuve. Et il y a aussi une nouvelle collection qu'a lancée France TV. Le pilote a été tourné et maintenant on va attendre de voir le résultat et si ça fonctionne, ce que je pense que ça sera le cas parce que c'est quand même une histoire particulièrement intéressante qui s'appelle Les Trois Brestoises, avec Déborah Cré, Garance Thénault, Charlotte Gassio, et réalisé par Stéphane Capès, que je vais tourner aussi, ainsi que DNA. Et donc voilà.
Du cinéma aussi cette année, avec le film Héros de Elie Chouraki, qu'on découvrira dans la saison.
Exactement, oui, Héros de Elie Chouraki avec Kad Merad, un film assez assez surprenant, qui est l'histoire vraie de d'Elie Chouraki, de son grand-père. Son grand-père qui était gardien de nuit au Louvre et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands ont envahi Paris, a pris un camion et a emmené avec lui des centaines d'œuvres majeures qui étaient exposées au Louvre, les a cachées et qui, une fois la guerre terminée, est revenu au Louvre et a réaccroché les tableaux, dont la Joconde.
Il est vrai que à ton jeune âge, mon cher Roby, t'as déjà 20 ans de carrière quasiment. C'est totalement dingue. Quel est le secret de la longévité pour toi? Et quels conseils tu donnerais aux jeunes comédiens qui ont 16, 17, 18 ans, qui ont envie de démarrer dans ce métier pour durer?
Je dirais travailler dur. Hein. La chance, j'y crois, hein, mais je base pas ma vie là-dessus. Hein. Je joue au loto pour autant. Hein. Mais est-ce que je base ma vie sur la chance? Non, je pense qu'il faut juste s'accrocher. C'est un métier assez difficile, où on est souvent amené à douter de soi-même. On est poussé à douter de soi-même. Il faut juste être résilient. Y croire, et ça c'est les seuls conseils que je peux donner, mettre en place une stratégie pour essayer d'avancer et de bien s'entourer. Je pense que s'entourer dans ce métier, c'est très important. Être au courant des projets, pouvoir en parler à son agent, pouvoir mettre en place une stratégie afin d'optimiser sa carrière, de créer une infrastructure. Tout seul, c'est compliqué. Donc avoir des bons partenaires de jeu, que ce soit même pour des auditions, trouver des bons partenaires qui te donnent la réplique, qui te font travailler les rôles, avoir des gens qui te tirent vers le haut
et s'accrocher
bien évidemment.
Ben oui, c'est clair. En tout cas, c'est une année bien remplie pour toi et qui t'attend. On s'impose une hygiène de vie quand c'est comme ça, évidemment. Quand on tourne le lundi à Brest, le mardi à Sète et le jeudi à Marseille.
Oui, on s'impose une hygiène de vie malgré le fait qu'on a peu de sommeil. Donc on essaie d'optimiser chaque moment un peu où on a du temps, que ce soit pour dormir, pour apprendre ses textes ou pour juste fermer les yeux.
Ben écoute, on va continuer à te suivre en tout cas. Demain nous appartient, c'est évidemment du lundi au vendredi pour cette rentrée à 19h10. Ça continue évidemment avec le rôle de Fred, Brigade du Fleuve bientôt, Les Trois Brestoises bientôt, Alter Ego bientôt aussi sur TF1. Tu tournes un peu pour toutes les chaînes, c'est génial. Et puis Héros bientôt au cinéma avec le film d'Elie Chouraki. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Notre coup de cœur télé est consacré bien sûr à Dents de Beaudrap, nouvelle série inédite que vous allez pouvoir découvrir dès mercredi à 21h10 sur France 2 et déjà en ligne en intégralité sur France.tv. Et sa réalisatrice Stéphanie Pilonka est avec nous pour en parler. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va découvrir cette série qui est vraiment une série de comédie. On va beaucoup rire évidemment dans cette série, mais pas que, ça va faire beaucoup réfléchir aussi sur ce sujet aussi. Qu'est-ce qui se passe et comment on réagit quand on perd tout d'un coup, puisqu'on va y suivre l'histoire de Justine et Rémi Blanchet qui sont sur le point d'accéder au Saint-Dessin de la haute bourgeoisie en intégrant un fameux cercle fermé et qui doivent marier leur fille aînée Capucine avec le meilleur parti de la ville. Mais voilà, il se trouve que Rémi, lui, se retrouve licencié. Ils vont se retrouver également ruinés et là, ils vont se mettre dans de beaux draps pour essayer de sauver les apparences. Est-ce que c'est bien résumé?
Tout à fait, c'est exactement ça.
Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans ce projet, Stéphanie?
Le ton, l'humour, la fantaisie, puis le propos, les apparences, la quête de notoriété, quelque part, la quête de finances florissantes, et puis se tromper de chemin pour réaliser que c'est dans le vivre ensemble qu'on arrive à être heureux et pas forcément dans une quête effrénée pour le pouvoir et l'argent.
Alors toi qui as réalisé pas mal de films, d'unitaires pour le cinéma, pour la télévision, c'est ta première grande série. Je sais que c'est quelque chose dont tu es très fière aujourd'hui.
Ouais, je suis très fière parce que j'en avais jamais fait. Je voulais pas en faire en fait. Je cherchais le bon truc, tu vois. J'avais pas envie de passer, enfin de faire la énième saison d'une énième série qui marche.
Mais oui.
J'avais envie de challenger un peu et de partir un peu dans un ailleurs, dans un inconnu, tu vois.
Oui, puis être là dès le début du projet, du coup.
Exactement, voilà. Être là depuis le début pour insuffler une grammaire, un ton, un esprit.
Stéphanie, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé un peu dans ce film, c'est que t'as beaucoup de scènes où il y a beaucoup de monde aussi devant l'écran.
Oh là là.
Et comment on gère ça pour arriver justement à filmer ça de façon que chaque personnage ait son importance, évidemment, où chacun a un focus, évidemment, à un moment donné. T'as des scènes où je pense à une scène justement où Rémi et Justine arrivent chez les parents du mari de Capucine et que là, on se retrouve dans une réunion où il y a peut-être 20-30 personnes à filmer, quoi.
Ouais, puis on a fait aussi un 31 décembre avec 300 personnes, tu vois, c'est de la folie. Moi, je viens du doc, donc ça me fait pas peur que ce soit du doc dans des hôpitaux ou avec des gamins aux Jeux Olympiques, comme j'ai l'habitude de filmer beaucoup de gens ensemble. Et ça me plaît, j'aime bien les aventures chorales, tu vois, on est tous ensemble. J'aime bien les huis clos aussi, au cinéma ou à la télé, mais j'aime bien voilà les aventures un peu où on est tous ensemble, voilà.
Alors, il est vrai que cette série parle d'un sujet qui pourrait, évidemment, qui peut arriver à n'importe qui, hein, c'est comment on essaye de réagir au moment où on perd tout, alors qu'on a plutôt une vie aisée, que ça se passe bien, et puis d'un seul coup, on perd tout. Comment on fait pour réagir? Et évidemment, nos personnages, pour que ça soit intéressant, que ça soit drôle, ils vont réagir de façon un peu surdimensionnée, on va dire ça comme ça, parce qu'on va pas tout dire, autrement on va défleurer.
Ouais, tout à fait. Bon, je crois qu'on peut dire qu'ils décident de se cambrioler, tu vois, ils deviennent des cambrioleurs pour avoir du pognon, quoi. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas leur vocation. Et voilà, ils vont se mettre à transgresser alors que ce n'était pas dans leur plan de carrière, on va dire, dans leur plan de vie.
Et est-ce que c'est une bonne idée? C'est ce qu'on verra, évidemment, puisqu'ils ont l'air de se mettre dans de beaux draps.
Ouais.
C'est le cas de le dire, tous les deux. T'as senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui se passait entre Gilles et Léonore, parce que ça matche tellement bien entre les deux à l'écran?
Ouais, ils sont c'est des bons camarades, hein, et c'est des grands artistes, et c'est des gens qui aiment jouer. Faut aimer la comédia dell'arte quand tu viens là-dedans, tu vois. Faut aimer le jeu, faut aimer rire, faut être un clown. Et ce sont deux clowns, les deux.
Et ça marche bien.
Ouais, ça marche tellement bien. Puis ces deux clowns, ils ont une énergie, une vitalité, et puis un plaisir du jeu. Il faut aimer le jeu pour partir sur des trucs comme ça. Tu vois, et puis il faut sortir de ce qu'ils ont fait habituellement. Parce que moi, je demande souvent de quitter les codes de nos métiers et je m'en fous du bruit, je m'en fous des raccords, je m'en fous de c'était là et c'est pas comme ça et t'as bougé là et c'est flou. Je m'en fous, moi. Je veux que les gens y jouent.
Ben là, ça joue.
Donc, j'étais servie avec eux.
Et puis, ils sont extrêmement bien entourés. Hein. Charlie Bruno, Ariel Mallet, Stéphanie Bataille, Nicolas Briançon, Amaury de Crayancourt, Camille Jeuneau, Marie-Christine Adam. On va reconnaître Stéphanie Pareja. On va reconnaître tout plein de visages qu'on connaît, qu'on aime tant à la télévision.
Ouais.
Que c'est un super plaisir, en tout cas, de les voir tous là.
Moi, j'avais envie de faire vraiment quelque chose de populaire, d'accessible, de drôle, mais de qualité, tu vois. J'avais envie de soigner la mise en scène, vraiment.
Mais en tout cas, vous allez très vite vous faire happer par cette famille qui débarque donc mercredi à 21h10 sur France 2 pour les deux premiers épisodes. Et puis bien sûr, si vous avez hâte de savoir la suite, vous pourrez déjà aller sur France.tv puisque la série est déjà en ligne. Stéphanie, tes projets en dehors de ça, qu'est-ce que tu nous prépares pour cette fin d'année, l'année 2026? Est-ce que tu as déjà tourné des choses qui vont bientôt être diffusées?
Oui, j'ai un film sur la pédocriminalité qui va sortir sur Arte, un documentaire.
Ouais.
Et là, je pars tourner le 22 septembre, un long métrage pour le cinéma, voilà.
Ah oui, donc oui, tu vas être bien occupé là, pour cette fin d'année.
Ouais, voilà, ça va.
Bon,
ça va.
Un petit mot aussi, parce qu'on est à une semaine du Festival de la Fiction Télé, que tu connais, hein, que t'es déjà venu, bien sûr, aussi, au Festival de la Fiction.
Oui.
Et je sais que ta tournée, t'as réalisé une disparition inquiétante. C'est un festival qui va être particulier cette année, à laquelle on va beaucoup penser à Stéphane Strano. Et je sais que, voilà, il a été ton producteur sur cette série.
Oui.
J'aurais voulu que, voilà, tu nous dises un petit mot sur tes souvenirs avec lui, en tout cas, parce qu'on l'adore, Stéphane, et on va lui rendre hommage pendant toute cette semaine.
Ouais, quelqu'un de délicat, de très sensible, et puis tellement tourné vers la vie, vers les projets. On a fait d'ailleurs un projet ensemble, un très beau projet. Il lui tenait à cœur de parler de l'enfance et de la jeunesse. Mais voilà, c'est terrible. Puis ce festival, c'est lui et que lui, quel président. Tout sera bien fin d'à côté, évidemment.
Et en tout cas, on va beaucoup penser à lui la semaine prochaine au Festival de la Fiction Télé, festival que je sais que tu aimes beaucoup aussi, en tout cas.
Ah oui, j'adore. Ouais, ouais, absolument.
Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous. On va se quitter
merci
avec
toi,
la bande-annonce. Eh bien, Léon de Beaudra, ça démarre mercredi. On ne le rate pas. Stéphanie Pilonka aux commandes. Et on va beaucoup rire. À mercredi sur France
merci,
2.
Merci, c'est adorable.
Merci Stéphanie.
Merci beaucoup Alain.
Bienvenue au Ravel. Papa, maman, il y avait ça dans les toits du Raval.
Alors, j'ai créé ma société.
Vous avez signé avec qui?
Eh bien, c'est confidentiel.
Chut. Je pense que c'est du travail de professionnel.
Cathy, quand elle prend une affaire, c'est un pitbull. Elle lâche pas.
Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sauver les apparences? Inédit dans de beaux draps et prêt à tout pour y rester. Votre nouvelle série, bientôt sur France.tv et sur France 2.
Allez, notre invitée aujourd'hui, la comédienne franco-suisse Pascale Recard, qui est avec nous, avec une carrière absolument dingue, de nombreux films. Quelle carrière! Bonjour Pascale et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous.
Je suis ravie d'être là, merci Alain.
Alors Pascale, on va parler évidemment du livre « Objet de votre amour ». C'est déjà un livre qui est déjà sorti depuis juin 2025. On peut se procurer déjà chez tous les bons libraires. Et puis on va parler aussi de « Chromosome Plus » ou « L'éloge de la différence » qui est un film qu'on va bientôt pouvoir découvrir en salle. Mais pour commencer, on va déjà parler du livre « Immortaliser des couples ». Avec leur amour sous toutes ses formes, le couple sous toutes ses formes, en tout cas, c'est un peu l'objet de votre amour, justement.
Voilà, il faut que chaque couple, que les deux, trouvent leur objet qui les représente. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Il n'y a pas deux objets, on est d'accord. Et du coup, quand
ils... Je crois qu'il y a un totem commun.
Voilà, ça les symbolise, donc ils sont obligés de se parler. Et le but, c'est un peu de communiquer ensemble, communiquer quand on est en couple aussi. Et après, je les écoute de savoir pourquoi cet objet, parce que parfois c'est totalement iconoclaste. Et après, dans la solitude de l'écriture, j'écris un texte en prose où je les mets à l'honneur et je me rallie à la fin par l'amitié.
Et c'est plus de 40 couples qu'on va découvrir dans ce livre.
42 couples, quel que soit l'âge, la différence d'âge, la couleur, la culture, le pays, c'est des gens que j'aime et ils m'ont fait ce cadeau de partager un bout de bonheur pour le monde qui va pas très bien aujourd'hui et de se dire que l'amour continue.
Exactement, l'objet de votre amour, alors c'est ces couples qui sont immortalisés et puis après chacun avec une présentation hein, de ce qu'ils ont pu, en tout cas, vous confier.
Voilà, alors il y a c'était format au départ en exposition qui font 40-80. À gauche, vous avez la photo en carré. C'est des formats pour tout le monde pareil. Hein. Je retape absolument personne. On est sur un fond noir. Les deux couples sont en couleur avec leur objet totem en plan américain. Et après, le texte à droite raconte cette histoire. Leur histoire à chacun insolite. Et maintenant, il est effectivement en librairie aux éditions Slatkid. On peut le trouver partout. Et ça s'appelle l'objet de votre amour.
Comment est venue l'idée de faire ce livre ?
J'avais envie de parler du couple, parce que le couple, c'est quand même un champ d'expérience assez étonnant. On se demande parfois, oh, celui-là, il est avec celui-ci, tu vois, je suis curieux. Mais en fait, c'est jamais curieux. Il y a toujours une bonne raison d'être en couple et de s'aimer avec l'autre. Et j'avais envie de découvrir ça. Et c'est une création qui m'a fait énormément de bien, qui a fait énormément de bien au couple et au public, parce qu'il est venu nombreux dans différentes expositions. Au Grand Rex à Paris pour la Saint-Valentin, ils ont créé la Journée de l'amour. En Suisse, dans une immense usine hydroélectrique à la Belle Usine. Là, c'est à Verbier en ce moment et je serai à Raux, près de Caen, dans un domaine de cid pour les week-ends patrimoniaux. C'est le lundi 11, 12 et 19, 20, 21
septembre.
Dans une chapelle ancienne, romane, du XIIIe siècle, c'est un très bel endroit. Et mettre un peu d'amour aussi dans une chapelle et que des couples de différentes couleurs, de différents pays, de différents genres.
Donc là, on peut déjà se procurer bien sûr le livre, Pascale. Et puis il y a aussi ce film, Chromosome Plus ou l'éloge de la différence, qui est un hommage.
Oui, c'est un hommage. Je suis co-réalisatrice avec Gilles Valéry. C'est un hommage parce que je parle de mon beau-frère décédé qui était atteint du syndrome de Down, c'est-à-dire de la trisomie 21. On l'a élevé, il est décédé. Je voulais lui rendre hommage parce qu'il m'a beaucoup apporté sur le regard qu'on peut porter sur le handicap et surtout il m'a donné son chromosome du bonheur. Parce que c'est ça, c'est des gens profondément heureux, sans filtre et qui donnent, qui sont généreux. Donc j'ai eu envie de faire une pièce de théâtre que j'ai adaptée puisque je l'ai écrit aussi. Et dans le film, je mets tous les personnages à l'écran dans un fond animé par la jeune qui vit à Angoulême d'ailleurs, qui s'appelle Elisa Hoth. Donc c'est une fiction poétique, délirante, sur le
animé.
animé, évidemment, et je joue tous les personnages, donc c'est un peu iconoclaste, mais en même temps, c'est très poétique pour parler d'un sujet grave. Et j'ai toujours fait des pièces de théâtre avec, ou des films avec des sujets graves, mais toujours sur un angle de tendresse, de drôlerie, et surtout d'émotion, et sans jamais que ça soit réaliste sur la forme.
Oui, parce que c'est ça aussi, essayer de faire passer des messages, et à la fois, sur fond de poésie, d'animation et de film. Est-ce qu'aujourd'hui, le message passe mieux ?
Oui, le message passe mieux. Moi, quand j'ai voyagé avec ce spectacle un peu partout dans tous les pays francophones, les gens qui ne connaissaient pas le rapport au handicap ont été touchés. Et les familles d'ailleurs de trisomiques m'ont adoubé, en premier ma famille.
Alors, vous avez une carrière, Pascal, que ce soit en Suisse et en France, assez dingue. À travers justement ces deux projets-là, que ce soit le livre ou justement votre film, quels ont été peut-être les projets qui vous ont le plus profondément marqué aujourd'hui avec ce recul sur cette carrière ?
Oh, c'est difficile parce qu'on apprend sur chaque création, sur chaque projet, où on est au service d'un metteur en scène, comme je l'ai été beaucoup avec des metteurs en scène en tant qu'actrice, ou quand j'écris, ou quand je joue au théâtre avec une équipe. Donc je pense que chaque projet, c'est difficile de choisir. Disons que sur un des films, le film qui m'a fait rencontrer mon mari peut-être.
Ça c'est marquant, oui, quand même.
Le combat des reines de Pierre-Antoine Rose, où je jouais une paysanne pour une parisienne. Hein. J'ai eu 3 prix d'interprétation.
C'est pas mal.
Et j'ai fait naître un veau. Oui, mais j'ai plein de choses qui m'ont marquée parce que je suis quelqu'un qui voit la vie du bon côté. Comme la maman de mon personnage trisomique. Oui, il faut voir le verre à moitié plein.
Voilà, exactement. Les projets pour la suite ? Alors, il y a ce film, il y a le livre, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui fourmillent ? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent pour 2026, Pascal ?
C'est l'écriture. Là, après, je vais rentrer dans la solitude de l'écriture sur quelque chose qui m'est assez personnel, sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une histoire assez complexe.
Bon, à découvrir en tout cas, L'objet de votre amour, c'est le livre de Pascal Rocard qu'on vous invite à découvrir en librairie bientôt. Vous l'avez compris, au Cinéma Chromosome Plus, ou L'éloge de la différence, avec encore réalisateur Gilles Valéry. On en reparlera évidemment au moment où ça sortira, mais ça sera bientôt sur vos écrans. Merci beaucoup Pascal en tout cas d'avoir été avec nous pour bavarder un petit peu, et puis on se dit à bientôt.
Je vous remercie.
Allez, ne bougez pas. Dernière partie d'émission consacrée au film Une place pour Pierrot qui sort mercredi dans les salles. Hélène Médigue, Marie Gillin et Mathilde Labarthe nous rejoignent. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes. C'est qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux, et toi le dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes. Ce bordel, hésitation à terme. C'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin de tes querelles, tes pluies torrentielles. Elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système. Que je le vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne l'appelle. Regarde mes lèvres. C'est notre lune de miel. Et tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux. Et toi le dieu de mon ciel. Dieu dans mon ciel, ouh, ouh, ouh. Par un Dieu dans mon ciel.
plus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube
et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine dans Chut, on écoute la télé s'appelle Une place pour Pierrot, le premier film d'Hélène Médig, qu'on a grand plaisir en tout cas à retrouver après Hélène Médig, comédienne. C'est la réalisatrice ce coup-ci qu'on a avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Elle est venue accompagnée de ses comédiennes, Marie Gillin. Bonjour Marie.
Bonjour.
Qui joue Camille dans le film. Et puis on a également avec nous Mathilde Labarthe. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Merci d'être là toutes les trois pour parler de ce magnifique film, Histoire de Pierrot, incarné avec brio par Grégory Gadebois, qui vit dans un foyer médicalisé. Camille va s'apercevoir qu'à un moment donné, on s'occupe pas forcément très très bien de lui et va décider de prendre à bras-le-corps cette histoire et va le sortir de cet institut. Mais évidemment, ça va pas être de tout repos. Ça pose plein de questions, ce film. Mais comment est venue l'idée déjà, Hélène ?
L'idée, vraiment, ce film existe grâce à ma rencontre avec Christophe Rossignon, mon producteur, parce que j'ai été un peu résistante, en fait, à réaliser un film autour des thématiques qui me constituent. J'avais pas du tout envie de faire un film autour de mon histoire personnelle, mais bien une fiction avec une dimension universelle. Voilà, et en fait, Christophe Rossignon m'a convaincue. Quand est né vraiment ce récit avec le personnage de Marie et tous ces personnages secondaires qui permettent à Pierrot un retour à la vie. J'étais très sereine de réaliser un film qui s'adresse à tous et qui raconte quelque chose peut-être de très intime.
Alors moi, la première question que je me suis posée, qui d'autre que Grégory Gadebois aurait pu incarner Pierrot ? C'est tellement Pierrot.
Bah, personne. En fait, si Grégory Gadebois m'avait dit non, je crois que j'aurais pas fait le film parce que c'est vraiment le seul acteur en France qui pouvait endosser un personnage comme celui-ci. Surtout pour ne pas l'enfermer dans une représentation de la différence ou de l'autisme ou autre. C'est le travail qu'on a fait ensemble. C'est de pas du tout rentrer dans une forme de caricature et j'ai écrit ce rôle pour un acteur, justement pour ouvrir et permettre l'identification. Voilà. Donc, je crois que Pierrot raconte chacun d'entre nous.
Marie, le rôle de Camille, donc on sent vraiment une histoire fraternelle entre les deux, quelque chose qui les lie, qui est tellement fort, qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, qu'elle peut pas se résoudre à le voir s'enfoncer comme ça. Et elle décide, contre vents et marées, parce que, et également contre l'avis de son ex-compagnon, en quelque sorte, interprété par Vincent Elbaz. Camille, c'est vraiment la sœur parfaite.
Alors justement, je trouve que c'est la sœur imparfaite, mais c'est la sœur... Au départ, c'est la petite sœur de son frère. Et depuis qu'elle est petite, elle a dû prendre un rôle qui n'était pas forcément sa place. Elle est devenue un peu la grande sœur, ce bon petit soldat qui s'est battu depuis qu'elle est jeune pour trouver une place à son frère. Elle est pleine de vulnérabilité, elle est pleine de colère. Elle est pleine de colère contre le système qui ne prend pas soin de son frère comme il devrait. Et donc c'est un personnage qui est fort parce que justement elle est pleine d'imperfections.
Mais c'est là que moi je trouve la perfection. C'est justement parce qu'elle est pleine d'imperfections.
Oui, puis elle va petit à petit se créer de l'espace en coupant le cordon, c'est presque un cordon ombilical qu'elle a avec son frère qui les lie. Et c'est souvent ce qu'on dit d'une relation d'amour qui est équilibrée, c'est quand on accepte de voir l'autre partir, grandir et devenir autonome. Donc ce qui manque à son frère, c'est évidemment l'autonomie. Elle se bat pour qu'il s'émancipe, mais d'une certaine façon, elle a aussi peut-être été obligée de le surprotéger. Et petit à petit, quand elle va lâcher ce lien, eh bien elle va pouvoir elle-même lâcher prise et les choses vont se remettre au bon équilibre, à la bonne place.
Parce qu'en fait, ce qui la révolte, Camille, donc le personnage qu'interprète Marie, c'est que le plus grand handicap de Pierrot, en fait, c'est pas sa différence. C'est que la société ne lui propose rien d'adapté.
Oui, non, mais c'est ça le problème. Et aujourd'hui, et de nos jours, c'est un problème. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des débats sur l'autisme. C'est quelque chose qui est récurrent. On parle beaucoup d'inclusion, justement, parce que l'autisme, c'est pas une maladie. C'est une différence, mais c'est pas une maladie.
L'endroit de l'universalité du sujet, c'est qu'en fait, on peut retrouver ces situations dans de très nombreux domaines, hélas. Le mauvais traitement, la surmédication, les personnes âgées souvent vivent ça, toutes les personnes qui font l'expérience de la bipolarité ou de toutes ces, entre guillemets, pathologies psychiques et qui prennent beaucoup d'ampleur aussi aujourd'hui au XXIe siècle. Il y a une forme d'errance. Enfin, pour revenir en tout cas au personnage de Marie, moi j'avais très envie de traiter ce personnage avec ses contradictions et de bien raconter combien être aidant C'est pas être quelqu'un de parfait, mais c'est surtout accéder à soi, cesser d'être dans le contrôle pour être là pour l'autre. En fait, être là pour l'autre, ça demande d'abord de se rencontrer.
Et évidemment, pour le personnage de la fille de Camille, bah, elle va voir arriver son tonton à la maison. Et ça va pas être de tout repos non plus, ma chère Mathilde.
Ah non, pas du tout, parce qu'elle est au début de son adolescence. Elle a vécu la séparation de ses parents récemment, ce qui est déjà compliqué. Et en plus de ça, elle va devoir changer ses habitudes et devoir gérer l'amour qu'elle peut porter à son oncle et aussi la peur qu'elle peut avoir parfois à ses égards. Et elle va pas du tout se sentir assez prise en compte par sa mère. Donc elle va devoir en fait endosser un rôle qui est pas du tout le sien à la base.
Bah, c'est grande pour avoir ça à porter sur ses épaules. Pour le coup, elle a à se construire, cette jeune fille-là.
Je pense aussi que de nombreux adolescents peuvent s'identifier au personnage qu'interprète Mathilde. C'est qu'elle prend sur elle, effectivement, sa mère ne la prend pas en compte, alors que c'est une mère aimante, hein, on le comprend, très aimante, mais qui, effectivement, arrive pas à faire de la place à ce moment-là. Elle fait un hold-up dans ce foyer médicalisé où elle passe
tout passe par la fenêtre, c'est énorme.
Bon, ça, c'était un rêve absolu. Et Emma, qu'interprète Mathilde, au final, elle est dans cette contradiction d'adorer son oncle, mais au final de pas être non plus en mesure de le gérer au quotidien.
C'est assez universel, c'est vrai, parce que cette scène où on voit toutes les affaires passer par la fenêtre effectivement de cet institut pourrait très bien la représenter avec des enfants qui sortent leurs parents d'un EHPAD où ils le sentent pas bien. Enfin, c'est assez universel finalement. Il y a pas que sur l'autisme que ça peut être représenté. J'ai trouvé cette scène vachement universelle finalement, en fait. Elle te prend aux tripes de façon assez prenante. Comment on l'aborde, une scène comme ça, justement, pour avoir l'énergie où il faut y aller, Marie?
Il suffit d'avoir Hélène Médig qui est pas loin derrière la caméra et qui interagit comme une lionne. On avait un langage émotionnel très fort avec Hélène, donc on a beaucoup parlé parce qu'on adore échanger, mais ça passait aussi beaucoup par un langage organique, corporel et émotionnel. Et donc cette scène-là, en plus c'était quand même dans le début du tournage, je crois me souvenir, Hélène avait besoin, je crois vraiment, pour être au cœur de cette scène, de nous emmener dans cet état émotionnel qu'elle portait. Et je pense que ça a amené ce sentiment d'agitation, de libération et cette tension, parce que c'est quand même très très tendu. En fait, quand elle arrive dans cette chambre, même si ça n'est pas expliqué, on sent le passif de toutes ces années.
Et on sent qu'il n'y a rien qui l'arrêtera.
Il n'y a rien qui l'arrêtera. Elle est vraiment comme un animal qui ne contrôle plus du tout ses émotions.
C'est exactement ça. J'ai demandé à Marie, mais vraiment d'être un animal. En fait, cette séquence, elle n'est pas filmable si on redescend en termes d'énergie. Parce qu'en fait, cette pulsion, elle part de la cuisine quand elle découvre le pilulier, la surmédication, chose qui s'est déjà produite plusieurs fois. Elle est dans cette accumulation de ce moment-là jusqu'au foyer médicalisé aidé par ses amis. Elle ne redescend pas. Et en fait, c'est un travail d'actrice très très exigeant, quoi. Parce que on ne peut pas laisser une place à une détente à l'intérieur de ça. C'est pas possible.
Une place pour Pierrot, ça sort mercredi au cinéma. On écoute la bande-annonce et on revient juste après avec vous trois, tout de suite.
C'est les gars de l'entretien qui l'ont trouvé.
Bonne nuit, mon Pierrot.
Vous avez encore augmenté la médication de mon frère sans me prévenir.
Madame Levent, qu'est-ce que vous faites?
Mon frère ne restera pas un jour de plus ici.
Mais vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas...
Si, vous voyez, je peux.
Il paraît que t'as enlevé ton frère handicapé.
Mon frère n'est pas handicapé, il est autiste. Comment on va faire? On n'a pas de chambre d'amis.
Bon, et si je le prenais quelques heures par jour? Je trouverais toujours quelque chose à lui faire faire en cuisine. Voilà, c'est bien.
Camille, j'espère que tu réalises ce que tu vas devoir assumer si ça dure.
Ça durera pas.
Ok.
Non, Pierrot. Il est resté tout nu tout l'après-midi.
Ton zizi.
Hein? Je lui parle pas.
Et toi, Camille, comment tu vas?
Il est terminé, ton yaourt, putain! Maman!
Elle est très énervée, ma sœur Camille.
Allez, de retour pour notre spécial Une place pour Pierrot. Mathilde, on sent vraiment un attachement très fort à son oncle. Et puis, il y a des liens qui vous unissent tous les deux. On le disait, la musique, par exemple.
Oui, la musique, c'est vraiment au centre.
Et lui, il l'adoucit.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, je trouve que c'est un point commun aussi entre Emma et Pierrot. C'est que pour les deux, la musique, c'est un échappatoire. Parce que elle va toujours se réfugier dans la musique, même pour la scène de danse. Donc oui, enfin, leur lien, en fait, après, elle peut être qu'émerveillée par son oncle, parce qu'il a une telle sensibilité, une telle poésie, que c'est impossible de pas le regarder avec émerveillement et tellement d'amour, parce que c'est un gros nounours, on a envie de le prendre dans ses bras. Mais donc oui, la musique, c'est ce qui va le faire revivre aussi.
C'est clair.
J'ai l'impression aussi que Emma est le personnage qui ramène les autres personnages à leur bonne place. C'est elle qui rappelle je suis l'enfant, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, je suis adolescente, donc maman, il va falloir quelque chose qui change dans ce système parce que ça ne me va pas. Et c'est souvent les enfants qui nous remettent à notre bonne place, en fait.
Y compris avec son père, d'ailleurs, dans le film.
Oui, parce que le personnage de Vincent Elbaz, qui joue donc le père d'Emma, interprété par Mathilde, revient, on comprend à demi-mot qu'en plus Camille est partie pour de mauvaises raisons, parce qu'en fait, c'est ça aussi, être aidant ou grandir avec la différence, c'est que ça constitue une identité. C'est qu'au final, ça prend beaucoup de place dans l'existence.
L'équilibre familial peut s'en trouver des fois très déstabilisé.
Emma, en fait, à ce moment-là, elle a l'impression de ne plus avoir vraiment la famille qu'elle avait, parce qu'il y a eu tellement de changements entre la séparation de ses parents, son quotidien qui change, le début de l'adolescence, c'est plus cette même famille.
Elle perd ses repères.
Voilà, elle perd ses repères, alors qu'elle a un moment, elle est en train de grandir, en train de se constituer. Elle n'a aucun pilier auquel s'accrocher à ce moment-là.
Et puis Hélène, il y a un petit rôle quand même. C'est ce qui va servir un petit peu quand même de respiration pour Pierrot. Ça va être un peu la seconde partie du film où on évoque aussi les solutions, on évoque aussi des possibilités pour Pierrot, par exemple, de se sentir utile.
Ouais, donc j'interprète le personnage de Nina, que j'ai un peu réduit au fur et à mesure du tournage, parce que en fait, j'avais très envie de me consacrer à la fois à la réalisation et puis à la direction d'acteur. Peut-être qu'un jour, je réaliserai un film en jouant vraiment, en prenant une place. Mais là, non, en fait, j'en avais pas envie. Mais oui, ce décor de la ferme sur la côte d'Opale, qui est aussi un symbole, qui est un lieu très onirique, en fait. Moi, j'avais très envie, comme ça, ce décor d'agroécologie en bord de mer, avec tous les éléments un peu déchaînés. Et surtout, ces deux personnages qu'interprètent Marianne Bassler et François Vincentelli, qui sont elles-mêmes deux personnes brisées, en tout cas, dans leur parcours, en quête de transformation, en quête de sens, et qui décident d'accompagner ces personnes différentes avec et de retrouver du sens, comme ça. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Et Nina, qui est donc un personnage féminin auquel Pierrot va avoir envie de s'attacher.
La complicité qu'il y a entre les deux personnages est très très belle parce que lui, on sent que voilà, il tombe tout de suite amoureux, mais de tout, c'est un amoureux de la vie. De toute façon, Pierrot, c'est vrai, c'est un amoureux de la vie finalement. Et puis ils sont pas forcément au même niveau tous les deux là-dessus de compréhension. Et en tout cas, ça vous donne des belles scènes à tous les deux.
Merci.
Ça ouvre en tout cas une question qui est, je trouve, très belle et extrêmement bouleversante, c'est la question du sentiment amoureux pour les personnes différentes, pour les personnes autistes, et ça le renvoie à un endroit qui est très injuste, en fait. C'est pourquoi c'est pas possible l'amour entre une personne différente et une personne classique. Et Nina est aussi là pour lui mettre des limites, et je trouve que c'est des moments magnifiques de renoncement que Pierrot va devoir faire dans son rapport au sentiment amoureux.
Il y a quelque chose de très poétique dans tout ça. Bon, Mathilde, elle est comment, maman, sur un tournage en tant que directrice d'acteur? On la connaît comédienne, évidemment, on la connaît dans ses rôles, mais après, sur un plateau, surtout sur un film, est-ce qu'il y a une exigence? Est-ce qu'on oublie ce lien de parentalité un petit peu?
Oh oui. Alors, Hélène Médig, ma mère, elle est très exigeante, mais c'est ce qu'il faut. En fait, moi, je fais que me dire que j'ai eu beaucoup de chance de commencer avec ma mère, certes, mais avec cette exigence-là, parce que elle me le dit souvent, elle a des indications très précises, mais comme le disait Marie, c'est aussi un échange corporel. C'est vraiment, elle est tout le temps, il faut que tu fasses ça. Elle donne toute l'énergie, en fait.
Elle embarque avec elle son équipe.
Voilà, c'est ça, exactement. Et que ce soit avec ma mère, ça, pour le coup, on est sur un endroit professionnel, quoi, donc il n'y a pas du tout de...
C'est une belle expérience.
Oui, voilà. En fait, on a gardé, je pense, tout le meilleur de notre relation mère-fille, mais sur un plateau. Moi, personnellement, l'endroit où je me sens le mieux, et je suis avec ma mère, et je suis avec des acteurs formidables qui, en plus, me prennent tous sur leurs ailes et sont très bienveillants avec moi, et c'était une première expérience assez parfaite.
T'as été gâtée. Ça, c'est vrai, avec un casting pareil. Une place pour Pierrot, ça sort mercredi au cinéma. Qu'est-ce qu'on peut vous espérer? Moi, je vous espère plein de choses, en tout cas, deux jours de la sortie du film. J'espère que vous êtes très nombreux à aller voir Une place pour Pierrot. Voilà.
J'aimerais que Une place pour Pierrot rassemble.
Ça, c'est un joli mot. On terminera par vos projets, à toutes les trois. Marie?
Oui, moi je vais présenter au Festival de La Rochelle une mini-série qui s'appelle Ma femme est une espionne, qui est réalisée par Léo Carman.
Pour M6.
Voilà, pour M6, qui a vraiment une superbe aventure. Et puis je rejoins l'équipe d'un tournage d'un premier film qui s'appelle L'écrou de Sébastien Bardet avec Félix Moati. Voilà, pour le moment.
Bon, bah, très bien. Donc, on se revoit dans une semaine à La Rochelle pour passer un moment ensemble, pour découvrir en tout cas cette mini-série que vous découvrirez en avant-première du côté du festival de La Rochelle. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas en tout cas. C'est le 18 septembre et en plus, toutes les projections sont gratuites à La Rochelle. Donc voilà, on attend Marie qui en plus là-bas a été présidente du jury quand même en plus. Hélène.
Alors écoutez, moi j'attends que mon film sorte parce que c'est quand même
c'est déjà bien.
C'est beaucoup d'engagement. Non, voilà, évidemment, je réfléchis à d'autres projets de films et puis maintenant que je suis un petit peu libre, je vais peut-être refaire l'actrice.
Oui. Mathilde.
Sortie du film le 10 septembre et puis sinon bah continuer avec détermination vers cette voie.
Qui te plaît?
Oui. oui, bah ça je compte bien suivre cette voie-là, enfin il y a pas trop d'autres choix en fait pour moi.
Il faut quand même rappeler que Mathilde est aussi une immense musicienne et chanteuse.
Il y a une carrière culturelle et artistique qui s'ouvre.
Peut-être chanteuse en parallèle aussi, mais voilà, on verra ce que.
Et le bac français l'année prochaine.
Oui, bon, ça va.
Voilà, ça c'est fait, c'est dit, c'est placé. Voilà, exactement. Allez, en attendant, on fait une place pour Pierrot au cinéma. Ça c'est donc mercredi dans les salles. On ne le rate pas, on se quitte avec un extrait. Merci Mathilde, merci Hélène et merci Marie. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
On n'est plus une famille. Je ne peux plus être avec ma soeur Camille et ma nièce Emma.
Arrête, arrête!
Je pense qu'à lui. J'en ai marre, maman.
Que tu t'occupes de lui, je trouve ça très bien. Il prend toute la place.
Oh, t'es beau.
Oui.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé, on aura l'immense chance de recevoir les L.I.J. à quelques jours de la sortie de leur tout nouvel album. Eh bien, Elisa, Lucie et Juliette seront avec nous. On parlera également avec Gilles Alma de la série Dans de beaux draps. Baya Kasmi également sera avec nous à quelques jours de la présentation de sa nouvelle série Le Parfum du Bonheur au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Et puis, nous aurons le plaisir de recevoir l'équipe du film Les Tourmentés avec Lucas Bellevaux, Ramzi Bedia, Lynn Danfam, ou encore Niels Schneider qui seront nos invités exceptionnels.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.